Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est bon.
Par principe.
C'est quand même pas mal ce truc, ce film. On n'est pas 200, mais c'est pas mal. Il faut parler. Non, c'est moi qui lui ai mis les fenêtres. Alors. Je parle, ça marche. Ça marche. Bien, nous ne sommes pas 200, mais c'est quand même pas mal. Merci à Philippe Descola d'être là et surtout d'avoir supporté la 150e vision de ce film qu'il connaît par cœur, bien sûr, et il a participé déjà à beaucoup de réunions comme celle-ci. Je vais quand même lui laisser la parole, bien que vous êtes prévenu, ça ne sera pas une conférence, mais je vais quand même lui laisser la parole pour savoir si peut-être il a un tout petit truc à ajouter ou à préciser après ce visionnage qui, j'espère, a bien plu à tout le monde.
Bah, je regrette d'abord qu'Elisa Lévy n'ait pas pu venir, parce que c'est son film.
Elle était indisponible.
Elle était indisponible, et il nous arrive fort heureusement d'être ensemble pour commenter le film. Et je voudrais souligner d'abord tout l'intérêt du travail qu'elle a mené. C'est un film qui s'appelle « Composer les mondes ». Ça fait référence à un livre de dialogue que j'ai mené avec un jeune philosophe qui s'appelle toujours d'ailleurs Pierre Charbonnier, qui s'appelle « La composition des mondes ».
Qui était indisponible lui aussi, et il a été invité.
Et l'idée centrale de « Composer les mondes », j'en parle un peu dans ce film, c'est l'idée qu'on ne crée pas des mondes, on les fabrique sans le savoir la plupart du temps, en sélectionnant dans ce qui nous entoure et dans notre imaginaire des éléments qui nous paraissent pertinents, fondamentaux pour notre existence. Et ces mondes, ce sont donc des mondes disparates. Chacun d'entre nous compose un monde qui lui est propre du fait de son éducation, du fait de sa sa biographie, ces mondes coïncident pour beaucoup d'entre nous du fait que nous avons suivi les mêmes voies, nous avons été éduqués de la même façon, etc. Et lorsque des mondes coïncident entre un grand nombre de personnes, en général on appelle ça une culture, c'est le terme que les anthropologues utilisent depuis le 19e siècle, et les philosophes aussi, pour définir cela. Et donc, cette composition, elle est faite à partir de filtres qui ne sont pas des filtres conscients, qui sont des filtres que, encore une fois, on assimile à partir des récits que l'on entend, à partir des situations que l'on traverse, et qui progressivement nous amènent, je le dis à un moment, à nous trouver à l'aise dans un bocal, et à ne pas comprendre le fait que d'autres gens habitent dans d'autres bocaux qui sont très différents des nôtres. Et le rôle des anthropologues, c'est de faire le va-et-vient entre les bocaux. Ils sont nulle part complètement à leur aise, ni dans le bocal où ils sont nés, ni dans le bocal où ils reviennent, ni vraiment dans le bocal où ils ont été pendant quelques années. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement d'être à l'aise dans le bocal, ce qui compte, c'est de faire jouer au fond, les rapports entre ces mondes. Et c'est ce que ce film essaye de montrer. Et je trouve qu'Elisa Lévy a très bien réussi un travail de composition, qui est le travail du cinéaste, qui est le travail de montage, puisqu'elle a souhaité qu'on fasse un film ensemble il y a quelques années. Elle est venue me trouver pour m'en parler. Et elle m'a accompagné dans différentes circonstances en filmant. Et le mérite du film, c'est d'avoir, au montage, rendu cohérent une multitude de scènes qui n'avaient pas, au départ, il y avait un synopsis très vague, mais il n'y avait pas véritablement un scénario. Donc je voudrais lui rendre hommage. Et une des choses que j'apprécie dans ce film aussi, je le dis d'autant plus facilement qu'elle n'est pas là, donc je ne vais pas blesser sa modestie, c'est qu'elle a réussi à montrer à plusieurs reprises à quel point les non-humains, les animaux, les arbres, les fleurs, les oiseaux, étaient des sujets autonomes, c'est-à-dire au fond, c'était des agents propres qui avaient leur... un mode d'existence qui leur était propre. Et c'est un art difficile. Et je crois qu'elle a mené à bien ce défi dans ce film. Alors le film, j'espère qu'il n'a pas besoin de commentaires, puisqu'il est relativement explicite, vous l'avez vu. C'est peut-être une sorte de métaphore du travail anthropologique, c'est-à-dire c'est une série de scènes qui sont commentées ou en tout cas qui sont ponctuées par des remarques que j'ai pu faire, qui sont nées de mon expérience d'anthropologue, d'abord en Amazonie, ensuite dans d'autres régions du monde, et ensuite, comme tous les anthropologues qui sont issus de la lecture de travaux d'ethnographie que d'autres collègues ont menés dans différentes régions du monde. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce... Enfin, ce qu'Elisabeth et Lévy et moi avons voulu montrer dans ce film, c'est qu'il y avait des parallèles entre des populations autochtones qui défendaient leur territoire contre la spoliation et des communautés de vie qui se sont mises en place depuis quelques années en Europe, en particulier, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui sont fondées sur une conception différente au territoire que celle qui a cours ailleurs depuis la dissémination par la globalisation des principes et des règles du capitalisme industriel, à savoir le fait que les milieux de vie ne sont pas des choses que l'on s'approprie, mais des choses, au fond, qui vous possèdent. C'est une leçon que les anthropologues connaissent bien. Combien de fois des collègues m'ont rapporté avoir entendu de la bouche des populations parmi lesquelles ils vivaient que c'est... C'est la terre qui est propriétaire des hommes et pas l'inverse. Et ce que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et d'autres exemples de même ordre, d'autres ZAD du même type ailleurs en France ou en Europe, montrent bien, c'est qu'il est possible d'entretenir un rapport de ce type-là avec un milieu de vie, même si ça n'a pas été transmis par une très longue habitude. Il est possible de le créer. Et de le créer dans un délai relativement court. L'un des personnages du film le dit, au début, on est venu rendre service à des paysans qui luttaient contre ce projet pharaonique d'aménagement d'aéroport. Et petit à petit, on s'est senti accueilli par ce lieu et destiné à le faire vivre en l'habitant d'une certaine façon qui n'était pas celle qui était dominante tout autour, mais en étant, en s'identifiant très profondément aux plantes, aux animaux, au paysage de ce lieu, de façon à ce qu'il ne soit pas plus véritablement ce qu'il était auparavant, à savoir une valeur marchande, mais quelque chose d'absolument fondamental qui fait partie véritablement de la personne des gens qui habitent cet endroit. Bon, ça, c'est une façon, encore une fois, pour nous assez familière d'habiter, quand je dis pour nous les anthropologues, La formule classique de Notre-Dame-des-Landes, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. c'est quelque chose qui pourrait être dit sous cette forme-là par de nombreuses populations autochtones, et qu'il a été dans certains cas d'ailleurs. Et ce que j'ai trouvé intéressant en visitant Notre-Dame-des-Landes, c'est cette convergence. Et cette convergence, elle est aussi, au fond, un message d'espoir politique, c'est-à-dire qu'une autre façon d'habiter des territoires est possible, même si elle est ultra minoritaire en termes de nombre de personnes, c'est moins de 200, même si mes souvenirs sont bons, c'est 180, en termes de manière d'habiter des territoires, mais qui peut faire tache d'huile, qui peut servir d'illustration exemplaire à une façon alternative de vivre la condition humaine, et qui est moins éloigné de nos habitudes que peuvent l'être les façons d'occuper un milieu de vie du type de celle que les Atchouars ou d'autres populations en Amazonie ou ailleurs en Nouvelle-Guinée ont expérimenté. Donc ça rend plus familier un projet politique alternatif très très différent des habitudes que nous avons prises. J'étais très frappé d'entendre Gabriel Attal ces jours derniers au Sénat dire ici c'est pas la ZAD. Et je crois que ça en dit beaucoup. C'est un jeune homme en fait, bien sûr lui, hein, il a une trentaine d'années, mais dans sa tête c'était un petit vieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est incapable de comprendre, au fond, ce qu'est une expérience politique du type de celle de la ZAD. Et effectivement, moi, je préfère vivre dans une ZAD qu'au Sénat, de manière générale. Mais là, n'est peut-être pas tellement la question. La question, c'est qu'ils ont inventé une forme de démocratie qui est fondée sur le respect de chacun, sur la recherche permanente d'accommodement. Plusieurs des personnages de la ZAD le disent, qui rappellent effectivement la manière de faire, de procéder que j'ai pu rencontrer en Amazonie, qui ont été décrites ailleurs par des ethnologues dans des populations autochtones. C'est pas tellement une question de démocratie, même d'égalitarisme, c'est l'attention à autrui. À ne pas, en fond, empiéter sur les voisins et à rechercher non pas tant le bien commun, parce que c'est un peu une abstraction, le bien commun, que de rechercher ce qui est le mieux pour tous. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que le bien commun, c'est une sorte d'idéal abstrait, un peu philosophique, moral, qui peut être résumé en quelques phrases. On a étudié ça en philosophie jadis. Mais alors que ce qui peut convenir à tous, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour, dans des débats qui sont quelquefois assez longs. Effectivement, la phrase de Gabriel Attal évoque peut-être le fait que les assemblées des ZAD ou les assemblées dans des... population autochtone ou en débat de problèmes collectifs sont quelquefois interminables parce que c'est pas facile au fond de s'accommoder. Mais je pense que c'est un prix à payer. Donc voilà à peu près l'objectif de ce film qui a une. Au fond, qui était parti des travaux que j'avais menés. Qui m'avait conduit à mettre en question l'universalité d'une séparation entre le monde des humains et le monde des non-humains, chose que j'avais découverte sur le terrain en Amazonie, dont je me suis aperçu qu'elle était très commune dans beaucoup d'autres endroits, et qui m'a conduit de ce travail de clarification conceptuelle, théorique, à un intérêt pour une expérience collective comme celle de la ZAD.
Merci beaucoup. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous rappelle qu'il y a ici une table de librairie avec les livres de M. Descola. Mais donc, je vous rappelle que vous avez la parole. Il y a deux micros qui peuvent se balader dans la salle. Un seul, pardon. Qui peuvent se balader dans la salle. À la demande, n'hésitez pas, on vous écoute.
Oui, moi j'ai regretté un peu qu'on ne donne pas la parole, ou peut-être n'ont-ils pas voulu la prendre, aux habitants. Parce que les gens qu'on a vus, c'est les nouveaux habitants. Dans le film, on ne voit pas... parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont restés et qui cohabitent avec les nouveaux. Et j'aurais bien aimé... vous en avez rencontré ?
Oui, bien sûr. Oui. Ils sont... Ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est la transmission des compétences et des savoir-faire. Beaucoup de ces jeunes qui ont un passé de militants politiques, d'occupation de squats urbains, des choses comme ça, n'avaient aucune compétence en matière d'élevage ou d'agriculture. Et ils se sont formés sur le tas. Certains d'entre eux ont suivi des formations. Et ils se sont formés avec les premiers occupants, précisément. Les rapports avec l'environnement immédiat, c'est-à-dire les communes alentour, sont plus nuancés, disons, c'est-à-dire certains des habitants de ces communes regardent avec sympathie les zadistes, d'autres trouvent que, comme Gabriel Attal, c'est le bordel. Mais en général, l'implantation locale est plutôt, à mon sens, assez bien réussie, tant avec les premiers occupants qu'avec le voisinage.
Une autre question, s'il vous plaît.
Bon, alors moi, je vais laisser la parole à monsieur.
Excusez-moi, il faut le micro parce que j'ai oublié de préciser que si vous ne vouliez pas être filmé, dites-le parce que notre partenaire Canal Pourpre filme tout à partir de maintenant, bien sûr.
Ce qui caractérise quand même la ZAD, c'est...
Approchez le micro, merci. Eh oui, c'est compliqué. Non, mais il faut qu'on puisse écouter. Que la machine puisse écouter.
C'est la question du temps quand même. C'est-à-dire qu'elle s'est développée déjà toute seule avant qu'il y ait une occupation dont on voit depuis 68. La question de la résistance qui se met en place par ailleurs, c'est ça qu'ils n'ont pas, c'est le temps. C'est-à-dire que déjà là, ils ont eu le temps, avant qu'il y ait des assauts, une bonne quinzaine d'années de vivre sur ce territoire et de se connaître et de commencer à le faire exister, ce territoire. Ça, la question du temps est quand même assez primordial pour que les rapports existent autres que dans la lutte. On voit bien que toutes les autres ZAD qui essayent de se mettre en place, déjà les pouvoirs publics, dans un premier temps, ne veulent pas que ça existe. Donc ils vont ce modèle de la ZAD est maintenant ancré dans leur tête et les forces de l'ordre interviennent maintenant tout de suite. Cette question du temps, c'est quand même le temps de vivre. Et dans ce temps de vivre, il y a le temps de la lutte. Mais c'est ça qu'on n'a pas souvent.
Oui, ce qui est intéressant dans la ZAD, et lorsque j'en parle avec des gens ou avec des proches, par exemple, beaucoup d'entre eux me disent « mais la ZAD, c'est fini ». Je dis « non, au contraire, ce qui est intéressant, c'est ce qui commence maintenant, parce qu'ils ont gagné, en effet, mais c'est le caractère expérimental de ce qui se met en place en ce moment qui est très original et qui est, c'est un laboratoire, au fond, comme pour employer un terme un peu passe-partout, qui me paraît aussi intéressant que la Commune de Paris, d'une certaine façon. Et c'est vrai que le temps, c'est ce qui a manqué à la Commune de Paris en particulier, mais le temps joue un rôle important. Mais cela dit, il faut aussi ajouter que c'est une... Bien sûr, il y a des historiques qui font un peu la colonne vertébrale de cette occupation, mais il y a aussi beaucoup de fluidité, il y a beaucoup de passages. Autrement dit, il n'y a pas des gens qui sont installés il y a 20 ans et qui vont guider, au fond, de façon messianique, cette collectivité vers un futur meilleur. Mais il y a des gens qui, parce qu'ils ont été touchés profondément par ce qui s'y passe, par la chaleur et la densité aussi des relations sociales qui s'y développent, qui ont décidé de s'y installer, certains pour un moment, d'autres de manière plus approfondie. Et je pense que cette question de la... Oui, en effet, du temps joue un rôle, mais il y a des choses qui se transmettent aussi entre différents occupants. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On peut espérer le plus possible, on peut espérer que la ZAD va essaimer. Ce n'est pas quelque chose de complètement inconnu. Beaucoup de communautés anarchistes européennes, par exemple, se sont installées en Amérique du Sud, notamment au Brésil, au XIXe siècle, et ont fini par disparaître. La différence entre ces communautés et ou même des tentatives analogues de reconstituer des communautés comme les kibboutz ou des choses comme ça, ce qui diffère, me semble-t-il, dans le cas de la ZAD, c'est cette identification au territoire et aux habitants non humains du territoire. Ça, oui. C'est véritablement le...
Oui, ce qui me paraît, enfin, ce que je voulais ajouter, c'est que on ne peut pas isoler la question du temps de la question de l'espace. L'occupation.
Le territoire. Voilà. Le territoire a besoin de temps pour se développer, pour exister, pour se transformer. Mm-hmm. Mais le temps leur permet, à un moment donné, justement, de s'ancrer. Et ce qui, justement, actuellement, on n'a plus ce temps-là. Quand on fait le parallèle avec la commune, c'est justement, même la commune a. Dans cette ère un peu où cette révolution...
Non, mais excusez-moi, mais pourquoi on l'a plus? Pourquoi vous dites on l'a plus?
Moi, je parle de la commune.
Oui, non, mais...
Vous... On l'a plus, c'est-à-dire dans les luttes. Dans les luttes, en tout cas, on voit en France, très vite, ils stoppent. On voit bien quand même simplement 20 étudiants qui ont occupé une fac. Les 20 étudiants sont faits tout de suite, mais comme jamais... ils ont été arrêtés. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils savent très bien que c'est la police qui doit faire la politique. Et ça, c'est de plus en plus.
Alors, excusez-moi encore, mais M. Descola vient de parler de politique, justement. C'était ma question aussi que j'allais poser. Et il a parlé de recherche permanente au jour le jour, et interminable. Donc, n'attendons pas une plage libre... sans opposition, etc.
Non, c'était pour dire que c'était spécifique, la ZAD. Pour moi, elle est vraiment spécifique dans son inscription actuelle. C'est-à-dire que ce temps qu'elle a bénéficié, d'autres n'y arrivent pas à en bénéficier. Alors, ça ne veut pas dire que rien d'autre ne peut exister. Mais en tout cas, on voit bien que le rapport de force n'est pas dans l'installation. On voit bien à Bure comment ça a été... complètement. Il vaudrait peut-être même mieux ne pas s'appeler ZAD dans un premier temps. Ils vont trop vite à s'appeler ZAD.
Oui, il y a une dimension symbolique du terme qui
c'est la mode.
Joue à la fois pour et contre, bien sûr.
Ouais. Je ne sais pas si c'est que la mode, c'est performatif. Moi, j'aurais une question par rapport au mot, justement. Vous venez de dire qu'il ferait peut-être mieux... de ne pas s'appeler ZAD tout de suite pour ne pas être peut-être repéré. C'est le mot nature et environnement. Le slogan de la ZAD, nous ne défendons pas la nature, mais nous sommes la nature qui se défend. Si la nature n'existe pas, qu'est-ce qu'on défend? Et le mot environnement, puisque le mot environnement, ça ne convient pas non plus, parce que l'homme est extérieur à ce qui l'entoure. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qu'on peut, à part relationnisme ou monde de relations, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme terme? Et moi, j'ai essayé d'établir des relations avec mon chat, de penser une cosmogonie différente, et j'y arrive pas. Enfin, je suis.
Ah, si.
Ma question plus large, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'émanciper d'un dualisme ancré depuis le XVIIe siècle? Est-ce qu'il faut. D'abord, je pense pas que ce soit totalement possible et faisable. Est-ce qu'on peut imaginer des hybridités de cosmogonie, pour le dire vite. Comment est-ce qu'on peut penser une relation, c'est pas si évident ça, du jour au lendemain, de changer son mode de représentation, d'être et de composer les mondes. Donc si vous aviez des pistes, moi je suis preneur.
Je pense que c'est... Alors, un mot sur la terminologie. Effectivement, il n'y a pas de terme véritablement satisfaisant. J'emploie à l'occasion non-humain pour éviter d'employer le terme nature, mais ce n'est pas non plus satisfaisant parce que c'est un terme qui définit par privation d'humanité et donc dans lequel l'anthropocentrisme est immédiat. Donc il n'y a pas de bon terme, de même qu'au fond il n'y a pas de bon terme pour la plupart des choses que nous voulons désigner.
Une petite interruption, excuse-moi. Oui. Excusez-moi. Mais quand j'étais prof, il y a très longtemps, je devais enseigner des trucs autour de nature et culture. Et j'ai toujours eu du mal avec ces termes. Alors, ma solution, c'était de dire aux élèves, écoutez, pensez à confiture plutôt que culture et nature. C'est-à-dire, la confiture, ça me paraît pas mal comme terme de remplacement. La confiture, c'est de la nature, puisqu'il y a des fruits, tout ça. Et puis aussi, c'est vachement culturel, quoi, la confiture. Hein.
Oui, mais le problème, c'est que c'est... vous réintroduisez comme ça, subrepticement, l'opposition entre nature et culture.
Non, confiture, il y a cum dans confiture.
Oui, je sais, mais vous avez les matériaux de base qui sont les fruits, et puis la pratique culturelle de les cuire.
Mais justement, la confiture dépasse le truc. Et on la bouffe sur les tartines, quoi. C'est vachement bien.
Je sais, moi, ça m'était. J'ai enseigné la philosophie pendant un an avant de faire d'anthropologie, et ça m'est arrivé. Avant que les atouars m'éclairent sur cette question, de faire des cours sur nature et culture, parce que ça fait partie des choses qu'il faut faire. Donc, terminologiquement, on est en fait à l'intérieur du naturalisme condamné à employer les termes qui se sont. Qui ont commencé à. Qui ont forgé des éléments de notre. Nous avons forgé des concepts, plus exactement, qui désignaient des éléments qui devenaient perceptibles à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, et nous leur avons prêté une universalité qu'ils n'ont pas. C'est exactement même la même chose pour société. Société, c'est un concept tardif, au fond. Hein. En latin, societas, c'est une association d'humains, c'est pas une société au sens de Durkheim, c'est-à-dire quelque chose qui est extérieur et supérieur à chacun des éléments qui la composent. Donc lorsque nous parlons, c'est très difficile de ne pas parler de société. Moi je parle de plus en plus de collectif, parce que le collectif ne préjuge pas de la composition des éléments qu'il forme. Et donc, l'expérience de l'anthropologue, c'est qu'il y a des collectifs de toutes sortes, et des collectifs dans lesquels il y a simplement des humains, ce sont les sociétés, on a inventé ça, effectivement, et on l'a théorisé avec les grands textes de la sociologie et de l'anthropologie à partir de la fin du XIXe siècle. Et puis, il y a des... compositions complexes qui sont d'ailleurs pas si anciennes que ça, puisque au Moyen Âge on avait composé des cosmologies dans lesquelles humain et non-humain formaient partie d'un même tout. C'est pour ça qu'on pouvait se permettre de faire des procès d'animaux, parce que des règles communes s'appliquaient aux humains et aux non-humains. Donc, et je pourrais continuer les concepts, à énumérer des concepts qui sont inadéquats pour penser d'autres réalités que la nôtre, que celle des modernes, et même pour penser la réalité qui est en train d'émerger, qui est celle de l'Anthropocène, dans lequel les humains forment une partie en tout cas des forces qui s'exercent dans la nature. Et donc, cette opposition entre les deux n'est plus pertinente pour parler de la situation présente.
Ok. D'autres questions, peut-être ?
N'hésitez pas. Les conseils, peut-être.
Oui, parce que, à part bouffer les croquettes, voilà, j'essaie de... et des questions.
Attendez, prenez le micro.
C'est pas dans le sentiment... sentimentalisme, ce que je vais raconter, c'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que tout de suite on tombe dans quelque chose qui va compris, mais Je circule relativement souvent et quand je passe au bord de la Dordogne, il y a des endroits où on commence à couper des arbres. Il y a quelque chose en fait que je ressens qui est, je suis pas mystique, hein, que je ressens comme un arrachement. Bon. Et l'autre jour, j'entends un témoignage d'une personne qui racontait le remembrement dans sa région d'enfance. Et c'est ce que j'ai vécu aussi, puisque je suis issue du milieu rural. Et la nature, enfin, bon, l'environnement enfin, qu'on voit à Notre-Dame-des-Landes, c'était le mien. Enfin, le machin, le truc, le réel, en fait, de là-bas. Et c'est vrai que j'ai vécu le remembrement comme un arrachement. Hein. Enfin, donc c'est quand même la distinction nature, culture, etc. Bon, le fait qu'on soit dans une culture dite naturaliste, ok, mais pas tout à fait quand même quand on a vécu... Enfin, moi, j'ai eu les mains dans la terre très jeune, hein. Je travaillais au champ, etc. Donc, c'est pas qu'une histoire de travail, c'est une histoire de contact, quoi. Voilà. Je crois que c'est pas complètement fichu.
Ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle maintenant la solastalgie, c'est-à-dire le regret poignant vis-à-vis d'un monde que l'on a connu et qui a été en partie détruit par des aménagements. Et on ne retrouve plus ces marques, et on ne retrouve plus ces empreintes d'enfance et des choses comme ça.
C'est pas que ça. Hein. Parce qu'actuellement, je vis en milieu urbain, et c'est pas mon élément. C'est pas qu'une nostalgie, c'est un besoin, en fait.
Oui, bien sûr, mais c'est...
C'est pas de la nostalgie, hein,
mais
du tout.
La solastalgie, c'est pas de la nostalgie, c'est le sentiment poignant d'une rupture par rapport à une façon de vivre dans un milieu que l'on a connu à une certaine époque et dont on a le souvenir et qui contraste avec la façon dont on a de vivre dans ce même milieu s'il a été en partie détruit. Donc c'est un peu différent. C'est pas la nostalgie pour un monde de l'enfance, c'est pas la nostalgie pour un monde perdu. C'est la prise de conscience qu'un milieu a été profondément transformé, qui ne correspond plus aux émotions et aux sentiments et à l'appréhension sensible qu'on en avait à une certaine époque. Et je pense que tout le monde parle à son chat, de toute façon, c'est normal. Ça ne fait pas de nous des animistes, parce que pour devenir animiste, il faut en outre avoir été exposé à toutes sortes de récits dans son enfance qui font des chats plus que des chats, c'est-à-dire des êtres diables. Qui se voient comme des humains et qui viennent vous visiter en rêve pour vous raconter des histoires, etc.
Le chaboté.
Non, mais ça, c'est un conte, c'est différent. Le chat botté, ça parle des humains, ça parle pas des chats. Les contes ne sont pas du tout animistes, c'est les mythes qui sont animistes. Les mythes, c'est dans les
et
mythes.
Et le sourire du chat et...
Celui-là est plus animiste. Oui, Lewis Carroll est plus animiste, en effet. Mais les contes, en général, ce sont des apologies. Et donc je pense qu'il est important au-delà de cela, de pouvoir connaître les choses. Il y a un élément dans l'approche des non-humains qui a progressivement disparu et qui est celle de la connaissance tout simplement des plantes, des animaux. Très peu de gens sont capables d'identifier les fleurs sauvages.
Les arbres.
Dans les arbres, bien sûr, mais les fleurs qui poussent dans les fossés
les oiseaux,
au printemps et à l'été, les oiseaux, etc. Et cette perte est considérable, parce que la sensibilité pure, c'est-à-dire le fait de prendre du plaisir à être réveillé le matin par un merle, c'est une chose, mais comprendre ce que fait le merle et son rapport avec la mésange, le pouillot, etc., c'est une autre affaire, c'est-à-dire avoir le sentiment qu'on fait partie d'un monde qui est beaucoup plus vaste que celui que nous avons construit, nous, humains, et transformé, et que, parallèlement à nous, il y a toutes sortes de choses qui se passent auxquelles il faut être attentif. Donc je pense qu'il y a un effet, il y a un élément d'éducation qui est très très important et qui est progressivement en train de disparaître. Les leçons de choses n'existent plus et ça se transmet aussi dans la famille, mais on a beau avoir des applications pour repérer les fleurs ou les constellations, je ne pense pas que ce soit tout à fait suffisant.
Antonio. Oui.
Je vais essayer. Il y a un petit peu la relation que vous voyez de les SAD et avec le mouvement des communautés indigènes en Amérique latine, et qui commence à apparaître en Bolivie certains concepts plus originaires, locaux, ou comme dans le cas de la Colombie, dans apparaît nouveaument le concept des sentipensantes, les sentipensées, et qui permettent d'avoir une nouvelle construction aussi qu'on son entourage, la nature, le culturel, la vie sociale, ou les biopatrimoniaux, et qui permettent un petit peu reconstituer une condition d'égalité sur les contours qu'on habite. Il y a dans les SAD qu'on voit dans les films et aux documentaires, je vois encore quelque chose que vous disiez indirectement, il y a un romanticisme aussi sur la façon de possession de la terre. Est-ce qu'on peut dire que la globalisation il nous a construit dans un modèle de comment on doit agir socialement et dans la révolution, dans la résistance et dans la façon de posséder la terre?
Alors, je pense qu'il y a un phénomène qui est très intéressant en ce moment, c'est celui qui consiste à donner une personnalité juridique à des milieux de vie. C'est un mouvement qui s'est répandu un peu partout, qui souvent est le fait de populations autochtones. L'un des premiers exemples qui vient à l'esprit, c'est celui de la rivière Whanganui en Nouvelle-Zélande. Mais il y a aussi le Rio Trato en Colombie, il y a la rivière Magpie au Québec, le Mar Menor en Andalousie, etc. Et ce sont des milieux de vie qui ont une personnalité juridique en ce sens qu'ils ont, comme un syndicat ou une entreprise, la capacité d'aller en justice pour défendre leurs droits. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, qui est en train, encore une fois, de se développer, il y a eu, à l'initiative de Camille de Toledo, les parlements de Loire, pour essayer de donner à la Loire un statut de ce type-là. Ce qui me paraît intéressant, c'est... le fait que c'est pas un cas où on donne des droits à la nature. La Constitution de l'Équateur en 2008, dans son préambule, a donné des droits à la nature, virgule, ou Pachamama. La nature et la Pachamama, c'est pas vraiment la même chose, mais enfin, c'était une façon de transcrire précisément, de traduire dans une réalité locale, un concept comme la nature, mais je crois que ce n'est pas du tout la même chose. Mais le résultat a été nul. C'est-à-dire qu'il y a quelques cas dans lesquels des communautés d'intérêt sont allées en justice pour protéger la disparition ou le fait qu'une ressource a été affectée, pas beaucoup. Parce que la nature, encore une fois, c'est une abstraction. Donc, on peut donner des droits à quelque chose qui n'existe pas, c'est un problème. Alors que donner des droits à des milieux de vie, c'est très concret. Ce sont en général des bassins versants, d'ailleurs. Et sur ces bassins versants, il y a des occupants humains et non humains. Et le principe, c'est de donner à certains de ces occupants humains la capacité de représenter le milieu de vie dans sa totalité, pas les non-humains, pas des animaux ou des plantes, mais le milieu de vie dans sa totalité en justice. Là où ça pourra devenir intéressant, ce n'est pas encore le cas, c'est quand cette personnalité juridique sera l'équivalent de ce qui a fondé le droit moderne, c'est-à-dire la capacité, ce que Macpherson appelait l'individualisme possessif, théorisé dans la philosophie politique anglaise chez Hobbes, chez Locke et chez d'autres, c'est-à-dire l'idée qu'on peut rentrer, on peut être un citoyen et entrer dans des échanges économiques parce qu'on est propriétaire de soi-même. L'idée que, et on est propriétaire de soi-même chez les humains, et c'est que chez les humains, c'est ça le fondement, au fond, de la philosophie politique contemporaine. Que des milieux de vie puissent être propriétaires d'eux-mêmes, à ce moment-là, introduirait une situation intéressante, parce que cette propriété d'eux-mêmes pourrait entrer en conflit avec ce mouvement très ancien qui s'est développé en Europe d'appropriation des communs par des individus et des collectifs, qui a commencé avec le mouvement des enclosures en Angleterre et qui continue maintenant. L'affaire de... Vous évoquiez, quelqu'un évoquait l'affaire des mégabassines, par exemple, l'appropriation de l'eau continue à l'heure actuelle de façon continue, comme il y a plusieurs siècles, l'appropriation des pâtures, des forêts, des choses comme ça. Donc c'est un mouvement continu d'appropriation des communs, et la personnalité juridique qui permettrait à un milieu de vie d'être propriétaire de lui-même serait intéressant parce qu'elle viendrait renverser complètement cette situation d'appropriation qui, jusqu'à présent, va toujours des humains vers les non-humains. Et ça, je pense que c'est un phénomène qu'il faut surveiller attentivement. En plus, il y a la possibilité de mener des luttes pour cela, c'est-à-dire ce n'est pas des choses qu'on va vous concéder, et dans tous les cas que l'on connaît, c'est suite à des mouvements dans le cas de la Wanganui, par exemple, qui est l'un des premiers, ce sont les Maoris qui vivaient le long de la rivière, qui ont exigé du Parlement néo-zélandais la personnalité juridique. Donc c'est une façon de se mobiliser collectivement pour obtenir, pour un milieu de vie que l'on occupe, des droits qui n'étaient pas présents auparavant.
C'est peut-être l'occasion de revenir sur le titre du film « Composer les mondes ». Ce qu'on est en train de dire, de voir ici, c'est les difficultés, le nécessaire combat interminable, enfin. Et du coup, est-ce que l'idée même de composition n'est pas elle-même un peu trop optimiste? C'est-à-dire, comment composer un monde qui est lui-même... un cosmos, enfin, un cosmos pluriel, avec tant de choses et tant d'êtres et tant de, voilà, et tant de relations. Est-ce que l'idée de composition n'est pas une espèce d'optimisme comme ça, a priori, non?
Non, c'est un constat.
C'est un constat.
Oui, je pense que nous...
Le monde est déjà composé.
Non, nous le composons en permanence et c'est le résultat. Parce que les cosmologies, c'est le résultat de ces compositions, ou les ontologies. Bon, j'emploie assez volontiers le terme ontologie au sens de Russell, d'un ameublement du monde, hein, c'est-à-dire de ce qui compose, du mobilier au fond qui compose le monde. Et le mobilier de votre monde à vous n'est pas exactement semblable au mien, mais il y a quand même des éléments qui globalement se correspondent. Il y a des pièces, en tout cas, qui ont certaines spécialisations et des choses comme ça.
Non, mais je vais peut-être faire de la provocation, mais du coup, ok, je vois la composition sans arrêt, c'est ce qu'on fait, mais parler de composition... Le monde est souvent immonde. Enfin, en ce moment, il y a beaucoup d'immondes dans notre monde.
Ah, mais dans les mondes, oui.
D'intolérables, d'inacceptables. Et comment composer, comment parler de composition quand on est dans une, j'ose pas dire une mécomposition, mais enfin, au moins une disposition qui est loin de cette composition rêvée. Enfin, on est plutôt dans une... disposition, au sens où 10 veut dire que vraiment on est tous divisés, quoi.
Ben, les conflits portent toujours sur des questions de composition du monde. Oui. C'est-à-dire que ce sont des mondes différents qui sont... Si on fait un peu des géopolitiques simplistes, le monde composé par les Chinois, par exemple, qui est un monde que moi j'appelle analogiste, c'est-à-dire qu'il est fondé sur des correspondances entre des éléments extrêmement disparates qui sont dans les... Et des flux qui sont maintenus par le souverain. C'est le mandat divin du souverain. De ce point de vue-là, il n'y a pas un changement considérable par rapport à la philosophie confucéenne classique qui alimentait la philosophie politique de l'Empire chinois et l'actuelle philosophie politique qui est d'ailleurs alimentée par des philosophes néo-confucéens qui travaillent pour le Parti communiste et qui, au fond, ont repris et recyclé des éléments de ce type-là. Eh bien, c'est un monde qui est une alternative au nôtre, qui est fondé sur des principes complètement différents. Mmh. Et donc, c'est monde contre monde.
D'accord.
Je vise pas à une sorte d'œcuménisme général des
mondes. Non, mais alors, c'est la guerre civile qui nous menace.
C'est la
guerre des mondes, enfin.
Composer les mondes, c'est prendre conscience qu'il y a des mondes en conflit, précisément, et que ces mondes ne sont pas équivalents, et que certains d'entre eux sont plus acceptables que d'autres, sans aucun doute. Je fais part de mon admiration pour l'expérience politique de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ça veut dire que des mondes alternatifs comme celui de Gabriel Attal, pour revenir à l'un, ne sont pas ceux qui m'agréent au plus haut point.
Mais sommes-nous prêts à lui faire la peau, à ce connard? À ce connard ou à d'autres, enfin.
Non, mais je pense que une chose qui serait importante, on m'a demandé de faire la conférence inaugurale de la rentrée à Sciences Po en septembre, que j'ai fait. Je me disais, je vais aller évangéliser les futures élites politiques françaises. Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup d'étudiants étaient tout à fait convaincus déjà de ce que je disais. Et donc,
bon, tant mieux.
D'une certaine façon,
il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir. Disons qu'il y a des générations différentes.
Mais... Ça n'a absolument rien à voir, mais on vient de me signaler qu'il y avait une Dacia, que ça commence par FK, qui a laissé ses phares allumés. Excusez-moi pour la parenthèse, mais peut-être que quelqu'un va rester à composer des mondes à la CAP ce week-end. Je ne sais, on m'a dit que c'est une grosse Dacia bleue, ça commence par FK. Bleu, je ne sais pas. C'est pas à toi. Tu restes là, tant pis. Je vais aller voir. Il y avait une main qui s'était levée. Oui.
Oui, bonsoir. Par rapport à ce que vous dites là sur justement peut-être cette conférence inaugurale à Sciences Po, moi ce qui me surprend toujours quand je vois ces images de la ZAD, c'est la répression aussi. Et donc quelque part la menace que c'est en fait. Et aussi le fait que effectivement, alors si on est, je pense, peut-être tous d'accord ici pour dire que cette ZAD propose un monde acceptable, en tout cas des réflexions, enfin des propositions pour un monde acceptable, dans le sens, en tout cas, moi, dans lequel j'entends. Et ça m'interroge, en fait, que ce soit dans la marginalité que ça se propose, en fait. Et du coup, ça me fait aussi dire, bon, bah, comment est-ce que... C'est pas une question de généralisation, mais en fait, voilà, pourquoi c'est dans cette marginalité que ça se produit et pourquoi aussi c'est une telle menace ?
Parce que c'est toujours dans la marginalité que naissent des mondes nouveaux. Ça, c'est un enseignement historique quand même. Mmh. Effectivement, pour revenir à l'angoisse de l'État vis-à-vis de la prolifération, c'est pas simplement dans la tête de M. Attal, c'est assez général. Et c'est pour ça qu'on a souhaité mettre cette colonne de gendarmes c'est-à-dire des forces absolument disproportionnées par rapport à ce qu'il s'agissait de faire, et cette volonté de détruire aussi. C'est un habitat précaire, et comme c'est précaire, on ne ferait pas ça avec une zone pavillonnaire. C'est précaire, et pourtant, c'est une façon d'habiter les lieux qui est très significative. Et donc, mais il faut détruire cela de façon à ce qu'aucune trace de cette expérience ne puisse subsister. Mais ça a raté, voilà. Et ça a raté, parce que ça rate souvent. Pour prendre des exemples historiques, qui aurait imaginé en 1785 ce qui allait se passer quelques années plus tard, oui, qu'on allait couper la tête du roi, qu'on allait saccager les châteaux et les églises, des choses comme ça. C'était imprévisible.
L'embêtant, c'est qu'il y a eu Thermidor quelques temps après.
oui, c'est les aléas d'histoire, en effet.
Je voudrais juste réfuter ce qu'a dit Philippe Descola. Le capitalisme n'est pas né dans la marge. Et pourtant, c'est un monde nouveau qui est né au 19e siècle. Donc, il y a des mondes nouveaux qui ne naissent pas dans la marge, malheureusement.
Il est né un peu dans la marge, en ce sens qu'il est né dans l'accumulation du capital dans les colonies. Il est né dans plein de lieux différents où il a fini par se coaguler plus tard, mais c'était pas au cœur du dispositif. Le capitalisme, il fallait le naturalisme comme condition de possibilité, déjà. C'est-à-dire qu'il fallait pouvoir considérer que les non-humains étaient une ressource qui serait convertible en marchandise. Ça, c'est quelque chose qui, pour un anthropologue, est très bizarre. Le fait que... Enfin, ce que Marx appelle tout simplement le passage de l'argent comme un moyen d'échange à la spéculation, c'est-à-dire le fait qu'on achète des choses à un prix, qu'on les vend plus cher et que les marchandises servent à accumuler de l'argent. Ce phénomène-là, quand on a vécu, comme je l'ai fait, dans une société où il n'y a pas d'argent, et où les échanges sont destinés à renforcer des liens entre les personnes, mais pas à faire circuler des marchandises. Je l'avais lu dans Marx en partant sur le terrain, mais quand j'ai observé comment ça se passait, j'étais absolument éberlué. Je me dis, c'est vraiment possible, ça existe, ça a existé. Et donc, ce qui m'était familier, à savoir le fétichisme de la marchandise, pour reprendre les termes de Marx, c'est quelque chose... qui s'est mise en place historiquement à un certain moment, mais dont rien ne nous dit qu'il est inéluctable. J'ai eu la chance, comme beaucoup d'anthropologues, d'être déniaisé en adoptant le regard des gens chez qui je vivais, en adoptant le regard sur mon propre monde à moi. Et ça, c'est le côté extraordinairement révolutionnaire, si je puis dire, de l'expérience ethnographique. C'est la preuve que d'autres mondes sont possibles, pas nécessairement souhaitables au sens où, loin de moi, l'idée que tout le monde vive comme les Atchouars, il y a des tas d'inconvénients à être Atchouar, mais l'expérience que l'on... n'a de vivre la condition humaine de façon totalement différente de celle qui vous est familière, c'est quelque chose qui est porteur d'un espoir extraordinaire, parce que c'est porteur de la possibilité de changer profondément, non pas pour adopter un modèle existant, mais pour imaginer d'autres façons de vivre, puisque ces façons de vivre ont existé et continuent d'exister à la surface de la Terre.
Alors justement, excusez-moi, dans votre livre, je pense à ça, vous avez été vous catapulté par... votre expérience chez les Atchouars, mais dans l'ethnographie des mondes à venir, vous dites que les Atchouars sont aussi catapultés par la, la cosmogonie moderne ou dualiste, puisque les enfants vont à l'école et qu'en fait ils se retrouvent entre deux mondes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, parce que je crois que vous dites qu'on ne sait pas exactement ce que les enfants vont choisir, comment ils se représentent les mondes entre le monde, la cosmogonie animiste, et puis le monde qu'on leur apporte via l'école, ou même, bon, c'est un petit peu réducteur ce que je veux dire, mais on voit dans le film un hachoir qui a un MacBook Pro. Donc qu'est-ce qui se passe entre ces deux choses qui se catapultent? Est-ce que vous avez des éléments?
Alors, ce qui se conserve, c'est un éthos, c'est un type de comportement. On ne le voit pas dans le film, mais la personne qui me passe la parole, c'est un jeune hachoir que j'ai connu, il était grand comme ça, il jouait avec mon fils, et il est devenu le leader de l'organisation nationale en Équateur de tous les autochtones, de tous les indigènes. Et en tant que tel, il avait des responsabilités très importantes, y compris des responsabilités politiques, puisque c'est lui qui négociait la fin des conflits qui sont régulièrement provoqués par des politiques du FMI dans ce pays comme dans les pays voisins, et qui visent à supprimer les subventions qui permettent de rendre moins cher certains produits, en particulier l'essence. Donc depuis des décennies, en Équateur, forcés par le FMI, les gouvernements de droite comme de gauche augmentent ou suppriment les subventions pour les prix de l'essence, et ça aboutit à un soulèvement généralisé. Les routes sont barrées, les villes sont occupées, etc. Et les autochtones sont au premier rang de ces manifestations. Et pour que ça s'arrête, il faut qu'il y ait un médiateur. Ce n'est pas des partis politiques, ce n'est pas des syndicats. C'est l'Organisation nationale des autochtones, et qui, en l'occurrence, était dirigée par un hachoir. Donc ce garçon, il est complètement dans le mode moderne. Il a un Mac Pro aussi, un téléphone portable. Il va à Genève et à New York. Et en même temps, il se comporte dans ses négociations, dans ses capacités de mobilisation politique, comme son grand-père que j'ai connu, qui était un grand guerrier, qui a réussi à créer des factions et à fédérer autour de lui, par la parole en particulier, des groupes politiques, donc à faire corps. De ce point de vue-là, il ne sait certainement pas ce que son grand-père savait en matière de savoir, par exemple, botanique ou éthologique, mais il a conservé un certain type d'attitude. Donc oui, il y a des pertes, il y a des transformations, il y a des hybridations, bien sûr, partout. Mais ces hybridations ne veulent pas dire nécessairement des pertes au sens où font ce qui permet aux gens de vivre ensemble en partageant des valeurs communes va disparaître.
Sans transformation, pas de tradition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Ce dont vous êtes en train de parler me rappelle tout à coup ce livre qui s'appelle « Les souffles d'Amazonie », que vous devez certainement bien connaître. Et je m'intéresse beaucoup à la musique. Et il y avait une description dans ce livre qui était vraiment extraordinaire. Ça veut dire que quand, on peut dire, un village quoi, avait sa propre musique, bon, déjà ils fabriquaient leurs propres instruments, qui allait servir qu'une seule fois, et puis après on les jetait. Donc les accords étaient tout à fait, les fréquences du moment, etc. etc. Ils ne s'embarrassaient pas, comme nous, de ces échelles de valeurs sur la beauté du son, et la régularité des fréquences, etc. Tout ce blabla de la culture occidentale. Et alors, ce qui était vraiment intéressant, c'est que donc ils avaient des chants, des danses, etc. Et quand ils recevaient les villages voisins, s'ils n'étaient pas trop nombreux, et ils se faisaient un petit compromis comme ça entre eux, donc ils arrivaient un peu à, entre guillemets, s'accorder, mais pas trop quand même.
Un petit bœuf.
Non, non, c'est plus que ça. Ça veut dire que c'est pas un petit bœuf, ça veut dire on a la capacité quand même de, sans vraiment trop déranger l'autre et ses valeurs, disons, sa culture, etc., mais on trouve un petit point commun. Et puis, par contre, quand ils invitaient 3, 4 villages, là, il n'y avait plus rien. C'est le chaos. Mais le chaos existe. Le chaos existait. C'est pour ça que ce dont on soulève le monsieur avec son ordinateur, etc., nous, on le décrypte tout de suite comme une contradiction. D'accord. Mais je pense qu'il m'a semblé que c'est déjà depuis très longtemps dans l'état d'esprit de ces cultures, de cette culture-là, c'est déjà présent, quoi. Finalement, on n'essaye pas de trouver une base commune.
D'accord.
Toutes les choses se refont dans le chaos. Je trouve ça, moi, ça m'a beaucoup
c'est pour ça
marqué.
C'est pour ça qu'il disait, bien commun, ça ne va pas très bien, mais mieux pour tous, c'est pas mal. Oui. C'est ce que vous décrivez.
Oui. Oui, c'est très juste cette remarque. En effet, surtout si on prend en considération que dans le monde amazonien, comme dans le monde animiste en général, chaque groupe tribal est vu comme une sorte d'espèce à part. L'idée d'humanité en général n'a aucun sens pour ces populations. Autrement dit, chaque collectif humain et non humain a des caractéristiques physiques qui lui sont propres, et ces caractéristiques physiques chez les humains, ça englobe précisément le langage, la musique, l'architecture, l'habitat, les parures, etc., qui sont vues un peu comme nous voyons des différences physiques entre des oiseaux ou des poissons.
C'est ça.
Et donc chaque collectif est moi j'appelle ça des tribus espèces. Et donc, les accommodements ne sont possibles qu'à la marge, parce que comment accommoder un toucan avec un poisson-chat, c'est pas toujours facile.
Pignocchi s'amuse beaucoup avec ça. Bien, il n'y a pas d'autres questions ?
À quel moment la technologie ne vient pas comme colonisation ?
Alors, ça dépend de... C'est une question assez vaste, mais je peux répondre sur le fait que les Amérindiens les plus perspicaces, par exemple, ont adopté des outils qui sont des amplifications d'outils déjà existants. Je m'explique, un moteur hors-bord, c'est quand même plus efficace pour avancer sur une pirogue que de godiller. Mais c'est le même mouvement, enfin, c'est la même action physique, hein, c'est-à-dire c'est une propulsion. Un fusil est plus efficace pour faire la guerre ou pour chasser qu'une sarbacane ou un arc, dans une certaine mesure. Mais c'est le même principe, ça propulse un projectile, etc., etc. Donc, tout le problème est de savoir jusqu'à quel point on n'est pas grisé, au fond, par l'amplification du mouvement que ces outils nouveaux permettent, c'est-à-dire l'amplification des possibilités par rapport à un outillage différent. C'est pas l'outillage en soi, je pense, qui est responsable de la chose. C'est par exemple, il y a des cas classiques de surprédation. Je pense à la disparition du cerf de Virginie dans le sud des États-Unis, lorsque les Amérindiens, ayant obtenu des fusils, ont massacré le cerf de Virginie qui a disparu. Mais c'était pas tellement le fusil qui comptait que le fait qu'un marché s'était développé pour le cerf de Virginie, pour alimenter les colons. Mmh. Autrement dit, ce qui était nouveau, ce n'était pas tellement le fusil, c'était l'existence d'un marché.
Ouais.
Et l'idée que, en prélevant des animaux, on pouvait les transformer en valeur, leur chair en valeur marchande et sans imaginer des limites possibles. Voilà.
Ça, c'est un des actes de répercussion, mais tel qu'un moteur hors bord, une flèche qu'on envoie dans un arbre a un seul acte, dont peut-être de tuer une bête. Mais un fusil peut avoir d'autres actes. Un hors bord peut avoir d'autres actes, c'est-à-dire pollution, des répercussions comme ça, qui font que chaque objet n'est pas égal à un autre objet. Cette technologie n'est pas égale à une autre technologie.
Oui, ça, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est une question vaste et on ne peut pas répondre d'une manière générale. Mais les Atchouars, grâce à un jeune Américain qui a monté une petite ONG pour ça, ont installé un système de pirogues, de bus, de pirogues-bus, avec un moteur hors-bord alimenté par des panneaux solaires. Alors c'est pas mal les panneaux solaires parce qu'il fait très chaud sur les rivières et là il n'y a pas de pollution précisément. Les rivières chez les Atchouars sont navigables mais on ne peut pas accéder chez eux par les rivières parce que l'amont des rivières n'est pas navigable. Et donc ils ont ce dispositif remarquable qui fait qu'on peut accéder chez eux par des petits avions monomoteurs sur des pistes qu'ils contrôlent et après eux peuvent se déplacer le long des rivières, de façon plus commode qu'avant, à l'époque où il fallait aller à la perche, à la gaffe, ou en godillant à la pagaie, par ces dispositifs-là. Donc ça a été adopté avec enthousiasme.
Rien d'autre ?
On va boucler la boucle.
Non, c'était pour... pas que tout le monde reparte sans projet de réflexion.
Merci Christine. C'est vrai, on en manquait beaucoup.
Non mais parce que, comme on a dit tout à l'heure à ce monsieur, il faut plutôt lui, il faut du temps. Et à Bergerac, il faudrait qu'on commence à réfléchir à un endroit à défendre, qui est le bord de la Dordogne, au niveau d'un barrage qui est en aval de la ville, où nos élus ont des projets pharaoniques de construire un stade en eau vive avec des gradins de 3000 places et une berge complètement défoncée. Voilà. Alors, évidemment, on ne pourra pas s'y installer pour vivre, se construire des cabanes. Je ne suis pas sûre, il n'y a pas la place, mais on peut commencer à réfléchir comment défendre ce milieu naturel qu'est la Dordogne des assauts, des affreux. Voilà.
Merci. Sur cette parole militante.
Il faut s'allier avec les ragondins.
Oui, et les ragondins. Merci à tous et à la prochaine fois.
Pour les signatures, c'est là-bas. Si vous voulez, les dédicaces. Moi, je l'ai pas, celui-là.